Je vais vous parler de deux hérésies, mais à travers deux hérésies, c'est comme la vraie foi qu'on vise. Hein. Mais c'est vrai que souvent, les occasions des disputes, les polémiques, il y a quelque chose qui est bien, c'est que ça oblige de préciser un peu les choses. Parfois, ça se fait dans les larmes, hein, mais c'est... Et alors, c'est là qu'il ne faut pas être dupe. Enfin, je pense que tous nos intervenants l'ont déjà dit, mais souvent, quand on regarde ce qu'on appelle les hérésiologues, c'est les pères de l'Église qui aiment bien, on aime bien faire des catalogues d'hérésies et puis dire telle hérésie, en fait, c'est les descendants spirituels de tel autre, ou tout ça. Enfin, ça permet de situer les choses et puis surtout de mieux combattre une hérésie. Souvent, ils présentent les choses comme si on avait comment dire, une espèce de possession précise de la foi depuis l'origine. Et puis, il y a des gens qui sont méchants, hein, ça c'est vrai, hein, il y a des gens méchants, hein, ça je... Mais il y a des gens méchants qui se mettent à dire un peu n'importe quoi, et du coup on réagit, et puis on retrouve la vraie foi de l'origine. Alors, faut pas être complètement dupe de cette présentation. C'est-à-dire, c'est vrai que la foi, elle est une et toujours identique à elle-même depuis Saint-Pierre. La foi de l'Église aujourd'hui, c'est la foi de Saint-Pierre en l'an 30. Mais c'est quand même évident que il y a un véritable développement dogmatique, comme on dit, c'est-à-dire des précisions conceptuelles qui permettent de mieux voir ce qu'on croit. Vous voyez, je crois qu'il faut distinguer entre une adhésion au mystère chrétien et puis une explicitation rationnelle de ce mystère. Et c'est là qu'il ne faut pas être dupe des récits, des hérésiologues, c'est que bien souvent... C'est justement les polémiques, ce sont les hérésies qui ont permis de préciser les choses, au moins dans la formulation. Ouais, donc il y a toujours, c'est ça l'intérêt, enfin un des intérêts, je trouve, d'étudier les hérésies, c'est que ce n'est pas simplement un intérêt archéologique pour des vieilles polémiques qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui, mais ça nous aide à comprendre comment est-ce que le dogme s'est précisé, et ça nourrit encore l'intelligence de la foi aujourd'hui. Alors, c'est un petit peu ça qu'on va regarder, hein, c'est comment ce développement alors de la foi trinitaire de l'Église, disons, les quatre premiers siècles. C'est, je sais pas d'ailleurs si c'était ça qui vous a été vendu comme conférence. Hein, c'était ça, hein, quand même. Hein, c'est les Ariens et les Pneumatomaques, hein, c'est ça. Hein. C'est ça, hein.
Oui,
tout à fait. Oui, voilà, donc c'est bon. Tout d'un coup, j'étais plus très sûr. Mais... Alors, bon... La foi trinitaire, où ça commence, on pourrait dire, vous connaissez tous la finale de Saint Matthieu, l'évangile. Allez, baptisez-les de toutes les nations, faites des disciples, de toutes les nations, faites des disciples, et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, on pourrait dire, donc, l'évangile de Saint Matthieu, années 70, années 80, vous voyez qu'il y a déjà la possession d'une formule trinitaire qui, en un sens, est indépassable. Qu'est-ce que c'est qu'être chrétien? C'est croire en un Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Bon, ben, visiblement, au premier siècle, c'était déjà le cas. Enfin. Alors, au deuxième siècle, ça, on l'a vu par nos deux premiers exposés, donc à la fois Rémi Brague et puis Jean-Daniel Dubois, c'est vrai que l'Église a été très perturbée par deux courants hérétiques qu'il faut distinguer, aussi bien Rémi que Jean-Daniel Dubois l'ont distingué, mais enfin qui ont quand même aussi des affinités, c'est le gnosticisme et puis le marcionisme. Et ces deux courants, je dirais, se rejoignent au moins sur un point, c'est que ils rendent problématique la foi dans le Dieu créateur. Pour les martionnites, c'est parce que le Dieu, à la limite, il y a deux dieux. Hein. Il y a un Dieu bon qui est le Dieu des chrétiens, il y a un Dieu méchant qui est le Dieu des juifs, qui est le Dieu de l'Ancien Testament, qui se met en colère, qui n'est pas un Dieu très chrétien. Hein. Ce Dieu n'est pas très catholique. Il est trop méchant pour être catholique. Et surtout, il est l'auteur d'un monde dans lequel le péché est comme rendu nécessaire parce que ce monde, c'est le monde de la matière et la matière est pesante. Ça, c'est donc chez les martionnites. Le Dieu le Dieu dont on raconte l'acte créateur, en Genèse, Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3, ça n'est pas le Dieu de Jésus-Christ. Ce sont deux dieux. Un Dieu plutôt méchant, celui de l'Ancien Testament, et un Dieu plutôt bon. Et qu'est-ce que le salut? C'est Jésus-Christ, justement, qui vient nous révéler qui est le vrai Dieu, qui n'est pas l'auteur de la création. Et puis le gnosticisme, alors c'est très compliqué, Jean-Daniel Dubois nous a un petit peu sensibilisé à cette complexité de la constellation gnostique qu'on connaissait pendant longtemps à travers les réfutations, notamment de Saint-Irénée et Tertullien, et puis grâce à la bibliothèque de Nag Hammadi, on perçoit mieux la complexité du phénomène. Mais enfin, je dirais que pour ce qui m'intéresse, il y a quand même toujours cette idée que la matière, sans être forcément créée par un dieu mauvais, c'est quand même le lieu d'une dégradation nécessaire. Vous voyez, il y a quand même toujours un peu dans les courants gnostiques, et en cela ils sont assez grecs, il faut le dire, d'une exaltation de la partie rationnelle, de la partie psychique, enfin âme ou spirituelle de l'homme. Et donc on exalte l'intelligence, la connaissance, gnosis, comme connaissance rationnelle, et on va déprécier le corps matériel, parce que s'il n'est pas franchement mauvais, en tout cas, il est toujours un cran en dessous de l'âme, et c'est quand même plutôt un handicap qu'autre chose. Donc vous voyez que aussi bien le marcionisme que le gnosticisme, même si c'est différent comme courant de pensée, se rejoignent dans cette tentation d'exclure la création, et notamment la création de la matière, du christianisme. Et ça explique pourquoi, au IIe siècle, le grand combat, donc je ne vais pas refaire les deux derniers exposés, mais c'est le combat justement contre le marcionisme, contre le gnosticisme, va à la fois promouvoir l'unité des deux testaments, c'est-à-dire en fait le Dieu d'Israël et le Dieu de Jésus, c'est le même Dieu. Voilà, j'espère que ça n'est pas un scoop pour vous, mais Jésus était juif et le Dieu auquel il croyait, le Dieu dont je n'ai pas le droit de prononcer le nom par Jéhovah, donc c'est le tétragramme. Donc, qui a créé le ciel et la terre ? C'est le Dieu de Jésus-Christ. Et également donc de montrer la bonté de la matière. Alors ça, Saint-Irénée et Tertullien, qui n'est pas du tout saint puisqu'il a très mal terminé, insistent beaucoup là-dessus. La matière est bonne parce que la matière a accueilli, il y a le corps du Sauveur. Donc Jésus-Christ n'a pas méprisé la matière, il s'est fait l'un de nous. Et puis aussi, Saint-Irénée, j'aime bien jouer sur cette carte-là, il dit « mais regardez, les instruments du salut qui sont à notre disposition, ben c'est quand même les sacrements, et les sacrements, il y a toujours de la matière, il y a de l'eau, il y a du pain, il y a de l'huile, il y a du vin. » Et donc, la matière étant partie prenante des moyens du salut, comment pourriez-vous dire que la matière serait intrinsèquement mauvaise ? Donc le IIe siècle, dans sa double réfutation du gnosticisme et du marcionisme, va promouvoir l'ordre matériel et aussi rattacher la création de l'ordre matériel au Christ, en s'appuyant sur le Nouveau Testament, puisqu'il y a plusieurs énoncés du Nouveau Testament dans l'Épître aux Hébreux, en Colossiens, le prologue de Saint Jean, qui nous présente le Christ dans sa dimension pas simplement temporelle, Jésus de Nazareth, né d'une femme, mais aussi éternel, le Fils de Dieu, mais c'est surtout la sagesse, c'est la clé sapientielle qui est utilisée par les auteurs du Nouveau Testament, parce que les livres de sagesse présentent dans l'Ancien Testament la sagesse comme quasiment une répétition de Dieu qui est à l'œuvre dans la création du monde. Et si vous voulez réfuter, par exemple, les marcionites, qui disaient le Père, en fait, c'est le Dieu des Juifs, il est méchant parce qu'il a créé le monde matériel, et Jésus, qui est le Fils, c'est le Dieu gentil, c'est en lui qu'il faut croire. Si vous établissez, à partir de l'Écriture sainte, qu'en fait, le Fils est tout autant l'auteur de la création matérielle que le Père, parce qu'il est auteur en tant que sagesse, bah, d'une certaine manière, vous disqualifiez la position marcionite. Alors voilà la situation dans laquelle nous sommes, je dirais, au IIIe siècle. Voilà, et donc, on a encore en tête les deux beaux exposés qu'on a eus avec Rémi Brague, avec Jean-Daniel Dubois. Mais alors, il se trouve que cette forte insistance sur le Christ, sagesse de Dieu, le Christ à l'œuvre dans la création du monde, et en particulier le monde matériel, va finir par poser des questions sur la nature précise de la divinité du Fils. Vous voyez, il y a une espèce de ricochet pour montrer que ce n'est pas le Dieu des Juifs, Dieu méchant qui a créé le monde matériel, mais aussi Jésus, le Dieu des chrétiens, qui a créé le monde matériel, on dit bah, c'est la sagesse à l'œuvre. Mais du coup, quand on regarde les textes bibliques qui nous parlent de la sagesse créatrice, on va finir par se poser des questions sur le degré exact de divinité de la sagesse, mais donc du Christ. Et là, on entre de plein pied dans la polémique qui nous intéresse aujourd'hui, enfin la question, la querelle, qui est la querelle arienne. Alors, on essaye donc au IIIe siècle, on va essayer de préciser justement cette divinité du Christ, mais toujours en faisant fond sur cette christologie sapientielle. Et c'est là que certains pères à la fois font faire un progrès réel à la doctrine de la foi à propos du Christ, disons à propos du Logos. Voilà, Logos va très bien parce que c'est très proche de sagesse, hein, comme de la sagesse comme lexique. Mais ils vont avoir des formulations qui vont finir par être problématiques. Alors, là, je pense en particulier à deux personnages. Je pense à Justin de Naplouse et Origène. Alors, ils sont à cheval sur le deuxième et le troisième siècle. Si on prend Origène, par exemple, Origène, comment dire, croit tout à fait en la divinité du Christ, en la divinité du Logos, mais il se dit comment faire pour expliquer la distinction du Père et du Fils. Le Fils est Dieu, mais enfin, c'est pas la même chose que le Père. Il y a quand même une distinction entre les deux. Et pour préciser cette distinction, il va utiliser l'Écriture sainte, ça c'est évident. Cette christologie sapientielle dont je vous ai déjà parlé, notamment l'Épître aux Colossiens, dans laquelle on nous dit que le Fils est l'image du Père. Alors, c'est pas mal l'image, parce qu'une image, c'est ressemblant au modèle. Une photo ou un portrait doit être ressemblant à celui dont je fais la photo ou le portrait. Mais une image, ça suppose aussi une distinction. Vous voyez que le concept même d'image, il est précieux parce qu'il suppose unité et distinction, ressemblance et différence. Et c'est exactement ce qu'on cherche quand on veut parler de la divinité du Christ, puisque on veut dire qu'il est Dieu, mais enfin, on ne veut pas non plus le confondre sous tous les rapports avec le Père, sinon le Fils n'est plus le Père. Enfin, on comprend plus ce que ça veut dire que le Père envoie le Fils. Quand le Père envoie le Fils, il ne s'envoie pas lui-même, il envoie quelqu'un de distinct de lui. Alors, c'est une très bonne idée, mais ça suppose, et c'est ce que va essayer de faire Origène d'ailleurs, de corriger fortement le concept d'image utilisé par les philosophes, notamment les philosophes platoniciens, puisque chez les platoniciens, le concept d'image ne se contente pas de véhiculer la ressemblance et la distinction, ou l'unité et la distinction, mais il est toujours accompagné d'une idée de dégradation. Puisque, bon, vous avez tous fait un petit peu de philosophie, c'est comme ça que Platon voit les choses, et le néoplatonisme, c'est que les réalités, les entités terrestres sont à l'image des entités idéales, appelons-les célestes si on veut, enfin du topos noetos, comme dit Platon, mais il y a toujours une dégradation. Alors, ce que essaye de faire Origène, c'est de montrer que le concept d'image, si je le pense dans sa pureté, je vais garder l'unité et la distinction, mais l'idée de dégradation n'est pas essentielle au concept d'image. On peut penser une image parfaite, même si ça ne se réalise jamais sur la Terre, parce qu'un portrait finit toujours par être... Il y a toujours un bout par lequel un portrait rate un détail de l'original, si vous voulez. Donc l'image, on n'a peut-être jamais d'exemple terrestre d'une image qui ne s'accompagne pas d'une déperdition ontologique, lâchons le mot, une déperdition d'être, une déperdition de vérité par rapport au modèle, mais Origène dit que ça n'est quand même pas nécessaire dans le concept d'image, et en Dieu, on peut supposer qu'il y a une image parfaite du Père qui est le Fils. Donc, vous voyez qu'il est très conscient du fait qu'il faut essayer de penser la distinction du Fils avec le Père, mais sans perdre sa divinité parfaite. Ça, c'est formidable. Mais, donc, bravo à Origène quand il retravaille le concept d'image, mais il y a un moment où, là, il rate un peu le coup, c'est que... Il dit, le Fils, pourquoi est-ce que le Fils existe? C'est parce que le Père lui a donné, a voulu lui donner l'existence. Alors, il fait ça, donc c'est le Père a voulu que le Fils existe. À la limite, si le Père n'avait pas voulu avoir un Fils, ben Dieu ne serait pas trinitaire. Oui, un jour, enfin, ce n'est pas le jour, justement. Origène dit, c'est depuis toujours que le Père a un Fils. C'est faux de dire que le Fils a commencé d'exister à un moment donné du temps. Il existe depuis toujours en Dieu, mais il existe en Dieu comme voulu par le Père. Il procède de la volonté du Père. Alors, pourquoi est-ce que Origène dit ça? Parce que ça lui permet de combattre un autre schéma très populaire dans la culture philosophique de l'époque, qui est le schéma d'émanation nécessaire qu'on trouve dans le néoplatonisme, où vous avez différentes entités, donc une espèce de hiérarchie. Et au fur et à mesure qu'on descend dans la hiérarchie, on tombe dans le multiple et puis l'imparfait. Et il y a dans les schémas néoplatoniciens l'idée qu'il y a un Dieu qui est au sommet de tout, qui est impassible, parfait, éternel. Et puis, il a un Fils, mais le Fils est sur un plan inférieur en tant qu'émanation. Alors, émanation nécessaire, mais quand même un peu moins Dieu que le Dieu qui est tout en haut. Et pour combattre ce schéma d'émanation nécessaire, Origène va dire le Fils, c'est le Père qui engendre par sa volonté le Fils. Voilà pour Origène. Et Justin, alors lui, il a une autre idée qui est tout à fait intéressante et qui va d'ailleurs être utilisée par tous les pères de l'Église jusqu'à la crise arienne. Ça, c'est pour répondre aux Juifs qui accusent les chrétiens d'avoir abandonné la foi juive en un Dieu, en un vrai Dieu qui n'est pas une idole, disons. L'Ancien Testament, donc, progressivement a imposé cette conviction à Israël, donc notre Dieu il est au ciel, comme dit un psaume, donc tout ce qu'il veut il le fait, Dieu est au ciel, ce qu'il y a sur terre et ce qui se prétend Dieu, ce sont les idoles des païens, ces horreurs à qui on offre des sacrifices, on offre même ses enfants en sacrifice, enfin, qui sont immorales, enfin tout ça c'est les horreurs des païens. Le vrai Dieu, disons, est transcendant, alors c'est pas un mot qu'emploie l'Ancien Testament, mais enfin l'équivalent, si vous voulez, c'est de dire que Dieu habite au ciel. Et s'il est au ciel, il n'est pas sur la terre. Alors les Juifs disent aux chrétiens, écoutez, vous nous dites que Jésus est Dieu, mais enfin, votre Jésus, il a mangé, il a bu, il a partagé la vie terrestre des hommes, comment pourrait-il être Dieu? Vous ne croyez plus, vous êtes redevenus païens. Et alors Justin a cette idée très féconde, comme l'idée d'Origène d'ailleurs, hein, tout ça est très, très intelligent, de dire, mais non, mais attention, nous croyons comme vous à la transcendance de Dieu. Mais c'est parce que notre idée de Dieu est plus complexe que la vôtre. Nous croyons en un Dieu qui est resté au ciel, et c'est le Père. Et quand il s'agissait de se manifester aux hommes, y compris d'ailleurs aux Israélites à travers différentes théophanies dont on a le récit dans l'Ancien Testament, pensons à l'apparition de Dieu à Abraham, pensons au buisson ardent, pensons à toutes ces choses-là, enfin voilà, au sacrifice d'Isaac, enfin, chaque fois que dans l'Ancien Testament, il est question de Dieu qui apparaît aux hommes, en réalité, Dieu le Père restait au ciel et il chargeait le Logos, son Logos, qui est éternel, sa parole, si vous voulez, il chargeait sa parole de le manifester sur la terre. Et donc, nous croyons comme vous au Dieu transcendant, mais comme vous aussi, d'ailleurs, à la limite, nous croyons en un Dieu immanent, simplement, nous sommes capables de répartir les rôles. La transcendance spécialement pour le Père, et quand il s'agit de se coltiner la révélation aux hommes sur la terre, ben c'est le Fils qui s'y colle. Alors ça, voilà, donc Justin et Origène, là dans un contexte alors un peu polémique, hein, mais qui n'est pas encore celui de l'arianisme, contre les critiques juives du côté de Justin, contre certains dangers, disons, philosophique du côté d'Origène, ont mis au point donc un arsenal conceptuel très précieux, mais qui va finir par se retourner contre les chrétiens. Pourquoi ça? Ben, sans doute que vous avez déjà deviné, parce que vous êtes intelligent et attentif, en tout cas intelligent, attentif, je ne sais pas, mais intelligent, et donc vous voyez que c'est par exemple, prenons Justin, c'est pas mal, c'est une bonne idée hein, de dire... on croit en Dieu, on n'est pas du tout comme les idolâtres parce que il y a un bout de Dieu qui reste toujours au ciel, c'est le Père. Et donc, ben voilà, on croit Nous ne sommes pas idolâtres puisque nous croyons au Père qui est Dieu qui reste au ciel. D'accord, mais enfin nous croyons quand même que justement le Dieu qui s'y colle, c'est le Fils. Et vous voyez que du coup, ça va être quasiment fatal de finir par se poser la question, mais du coup, est-ce que si c'est toujours le Fils qui se colle le sale boulot d'aller parler aux hommes sur la terre, est-ce que ça ne serait pas des fois qu'il soit un petit peu moins transcendant que le Père et donc un petit peu moins Dieu ? Oui, répartir les rôles de manière trop mécanique entre le Père qui reste dans sa superbe transcendance au ciel et puis il envoie le Fils quand il s'agit de se manifester aux hommes, on va finir par dire, mais du coup, est-ce qu'ils sont vraiment Dieu de la même manière, ces deux-là ? Si le Fils n'est que l'exécuteur des œuvres terrestres, est-ce que ça ne serait pas une espèce de super-ange, par exemple ? Après tout, c'est les anges qui, normalement, exécutent les œuvres de Dieu sur la terre. Vous voyez, ce type de questions, on ne peut pas ne pas finir par se poser ces questions-là. Et puis, notre ami Origène, donc Dieu qui est engendré par la volonté du Père, ça c'est le Fils qui est engendré par la volonté du Père, c'est formidable pour casser l'émanation nécessaire. Et donc, c'est formidable pour rappeler que, enfin, c'est comme ça que je comprends les choses, hein, c'est que la procession du Fils est un mystère d'amour. Voilà, moi, c'est comme ça que je comprends le coup d'Origène. C'est une manière de dire, si c'était une émanation nécessaire, c'est plus vraiment une question d'amour. Donc, c'est très précieux pour dire ça. Donc, ça réfute ces schémas d'émanation néoplatoniciens dont je vous ai parlé. Mais là encore, on ne peut pas ne pas se poser la question. Si le Père avait voulu que le Fils ne soit pas, le Fils ne serait pas, puisqu'il procède de la volonté du Père. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un Dieu qui pourrait ne pas exister ? Vous voyez, les philosophes nous disent l'attribut de Dieu, c'est le nécessaire. Ce qui est non-divin est contingent. Le contingent, c'est ce qui pourrait ne pas être. Ben, à la limite, Origène, on a l'impression que par certains côtés, il nous dit que le Fils est contingent, il pourrait ne pas être. Donc, c'est un peu problématique. Et voilà qu'au IVe siècle, les problèmes qui étaient un petit peu implicites avec Origène et Justin, qui eux-mêmes s'est appuyé sur la réfutation des gnostiques et des martionnites au IIe siècle, vous voyez que ça prend du temps, toutes ces histoires-là, hein. Là, le problème va finalement éclater au grand jour. Et alors, c'est donc à mettre au crédit ou au débit, je ne sais pas, d'un certain Arius, qui était prêtre à Alexandrie, donc ses dates, c'est 256-336, et qui, essayant un peu de faire la récapitulation de ce qu'ont dit les grands théologiens, Justin, Origène, enfin tous ces gens-là, et puis aussi méditant l'Écriture sainte, et notamment les textes sapientiaux, notamment Proverbe 8, qui est un texte très important dont je vais vous parler un tout petit peu maintenant, finit par dire, bon, bah, écoutez, à un moment donné, il faut être un petit peu clair, le Fils, si on l'appelle Dieu ou divin, c'est de manière empruntée par rapport au seul vrai Dieu qui est le Père. On a le droit de dire que le Fils est Dieu, mais à condition de bien comprendre qu'il est Dieu sur un plan inférieur par rapport au Père. Et il y a une phrase qu'on lui attribue. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ? Il faut toujours un peu se méfier, parce que souvent dans la polémique, on caricature l'opposant. Mais il ne l'a peut-être pas prononcé, mais je vais faire un peu comme Fouché. Hein. Tous n'ont pas tenu le couteau, mais tous sont réputés capables de l'avoir fait. Donc, tout le monde en tôle. Donc, il n'a peut-être pas dit ça, mais il aurait pu le dire. Alors, la phrase, c'est « Il y a un temps où le Fils n'était pas ». C'est la phrase qu'on attribue à Arius. Alors, vous voyez, si vous dites « Il y a un temps où le Fils n'était pas », clairement, vous ne pouvez pas croire en la divinité du Fils autant que vous croyez en la divinité du Père. Certes, le Fils est Dieu, mais il est Dieu comme pour dire que c'est la créature la plus proche de Dieu. Voilà, par métaphore ou par approximation langagière, on a le droit de dire que le Fils est Dieu. Arius dit ça parce que c'est quand même le langage de l'Église, vous voyez, donc il ne veut pas non plus dire, ça serait beaucoup trop brutal de dire, depuis 3 siècles, on dit n'importe quoi, arrêtons de dire que le Fils est Dieu. C'est pas ce qu'il dit, il dit continuons bien sûr de dire que le Fils est Dieu, mais ayons conscience qu'il est Dieu sans être tout à fait Dieu comme le Père, il est un peu moins Dieu que Dieu, voilà. Mais l'amour sans l'amour est sans corps de l'amour, hein, dit un grand intellectuel contemporain qui doit être non, c'est les inconnus qui disent ça. Alors, est-ce que Dieu, qui n'est pas tout à fait Dieu, est-il encore Dieu, finalement? C'est quand même un peu problématique. Enfin, en tout cas, Arius dit ça. Il y a un temps où le Fils n'était pas, on lui crédite cette phrase, et donc il va divulguer, il va propager ce que lui estime simplement une précision de ce que tout le monde croyait, hein. Il ne se voyait pas révolutionnaire, hein. À l'époque, ça c'était pas très vendeur d'ailleurs. Lui, il dit, je fais que... Mais il dit, c'est quand même bien d'être au précis, d'être bien d'équerre sur cette question-là. Alors, il propage ça, et alors il le fait à la fois par des homélies, par des discours, par des causeries, comme je fais actuellement. Et il a cette idée géniale, il dit, mais en fait, le bon petit peuple, c'est pas les causeries, c'est pas les homélies, les gens, tout le monde... À part vous, les gens s'endorment à mes homélies, elles sont trop longues, trop compliquées. Donc, et Arius, il voit un petit peu la même chose. Et il dit, ben, par contre, le bon peuple, qu'est-ce qu'il fait? Il aime chanter. Voilà, il aime siffler en travaillant, il aime chanter. Et donc, il va mettre en chanson sa compréhension de la foi de l'Église. Et donc, et il est tout content, du coup, à Alexandrie. Alors, il y a un port, donc il y a des dockers, alors c'est pas des intellos, mais enfin, qui transportent leur caisse tout en chantant. Il y a un temps où le Fils n'était pas, enfin, je sais pas sur quelle mélodie ils le font, mais et des mélodies un petit peu entraînantes. Et puis, voilà, on répète ça. Et puis, au bout d'un moment, ben, à force de chanter, il y a un temps où le Fils n'était pas, ben, on finit par dire, par y croire, quoi. Le Fils n'est pas Dieu. Le Fils est moins Dieu que Dieu. Alors ça va créer un gros bazar, parce que il y a quand même des évêques qui finissent par entendre parler de cette histoire-là. Certains disent Arius a raison, heureusement qu'il a eu le courage de préciser les choses. D'autres disent mais c'est n'importe quoi, il est en train de nous changer la religion. Si on continue sur cette ligne, on finira par dire la messe en grec. on dira la messe en vernaculaire, on la disait en grec. Enfin voilà, on est en train de nous changer les choses. Et donc, on réagit. Mais on réagit par des lettres, on réagit par des débats, et ça ne suffit pas. C'est la première fois dans l'Église que la querelle est à ce point forte, l'Église est à ce point divisée, que je dirais simplement les rencontres d'homme à homme. Voilà, c'est ce que je voulais dire, les rencontres d'homme à homme, les lettres d'homme à homme, d'évêque à évêque, on écrit à Arius, on écrit à son évêque, ça ne suffit pas à vider la querelle. Et ça fait tellement de désordre dans l'Empire romain, cette histoire-là, puisque l'Église commence à être une puissance forte et reconnue par l'Église, hein, on est après l'édit de Milan, que le pouvoir impérial, par la bouche de Constantin, dit « Mais écoutez, on va pas durer 107 ans comme ça, on va prendre les évêques du monde entier, on va les réunir et ils vont nous dire qu'est-ce qu'on croit finalement. » D'où le fait qu'on convoque pour la première fois dans l'histoire de l'Église un concile écuménique. Il y a déjà eu des conciles, et même beaucoup, mais des conciles locaux, c'est-à-dire à l'échelle d'une province, les évêques se réunissent à 5 ou 10 ou à 25 pour dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on rebaptise les lapsis, enfin ouais, des questions souvent disciplinaires, parfois un peu doctrine, mais c'est la première fois que, et ça dit, réunis, un concile écuménique. Donc, écuménée, c'est tout le monde habité. Alors, ça va se passer à Nicée en 325. Alors, Nicée, c'est pas très loin de Constantinople. Hein, Alors, les évêques, est-ce que c'est vraiment ceux du monde entier? Oui, c'est les évêques intelligents, c'est-à-dire les Grecs. Les Latins, qui sont complètement à la ramasse, hein, les Latins, pendant longtemps, on est à la ramasse. Hein, c'est toutes ces querelles métaphysiques, on n'y comprend que dalle. Donc, alors ce qu'on fait, c'est qu'on envoie deux légats, donc Ossius de Cordoue, puis peut-être un autre gars. Donc le pape envoie deux légats, et puis ça suffit bien. Donc c'est un concile écuménique, mais sur les 318 pères, il y en a que deux latins. Donc bon, enfin, ça dit un peu quelque chose aussi du centre de gravité, en tout cas intellectuel, de l'Église à cette époque-là. Et alors, on réfléchit, on s'insulte, on se casse la figure. Enfin, voilà, c'est l'Église hein, qu'on connaît bien, hein, l'Église vivante. Hein, on s'excommunie, on fait toutes ces choses-là. Puis à la fin, on finit par trancher. Et on va trancher, alors, contre Arius. En disant, c'est Arius qui a tort, on va l'excommunier. Et on va, ça aussi, c'est un acte important, on va dire, pour être bien sûr qu'il n'y ait plus d'ambiguïté, que cette détestable erreur d'Arius, qu'il soit maudit jusqu'à la septième génération, cette erreur s'arrête, on va produire un symbole, c'est-à-dire un texte qui permet de se reconnaître. C'est ça un symbole. Hein. Vous savez, on casse un tesson, chacun a une moitié, on peut dire ah ben, on est copains puisqu'on a chacun la moitié. Le symbole, c'est une manière, c'est un acte de reconnaissance de la vraie Église, de la foi, de l'Église commune, puisque c'est la foi commune. Et ça sera le symbole de Nicée. Alors, ce symbole de Nicée, on part pas de rien. On part de, il y a d'autres symboles. Alors, il y a Eusèbe de Césarée qui prétend que, enfin, quand il raconte cette histoire-là, évidemment, il se donne le beau rôle. On va prendre ce symbole et on va préciser évidemment les points qui concernent la divinité du Logos, puisque le résultat du débat de Nicée, c'est de dire Arius se trompe. Certes, le Logos est distinct du Père, mais il est autant Dieu que le Père. Alors, les symboles, ça a une structure trinitaire parce que ça accompagne la célébration du baptême. Vous vous souvenez, la finale de Matthieu, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et en fait, on a un petit peu étendu les choses. Et donc, au moment où on est baptisé, on proclame sa foi trinitaire. Je crois ou nous croyons un Dieu, le Père Tout-Puissant, machin, créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, l'Esprit Saint, et puis l'Église et tout ça. Alors, vous voyez, on va prendre la structure trinitaire, le Père. Donc, un symbole a toujours une structure trinitaire et on va, étendre l'article qui concerne le Fils, puisque c'est ça le problème. Qu'en est-il du Fils, finalement? Est-ce qu'il est vraiment Dieu? Alors, le symbole de Nicée, je vous lis ce qu'il dit à propos du Fils. Donc, je laisse tomber le début du symbole qui concerne le Père et j'arrive au Fils. Donc, nous croyons en un unique Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, unique engendré. Alors tout ça, c'est biblique, hein, Seigneur Jésus-Christ. Fils de Dieu, c'est, rappelez-vous, la confession de foi du centurion, vraiment, cet homme était Fils de Dieu, lorsque Jésus meurt sur la croix. Unique engendré, c'est monogénos, où est-ce qu'on trouve ça? À la fin du prologue de Saint Jean, au verset 18, on commence toujours par l'Écriture sainte, c'est une manière de dire notre foi, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la foi de Saint-Pierre. C'est la foi apostolique, c'est la foi des apôtres, c'est l'Écriture sainte. Mais parfois, faut préciser l'Écriture sainte. Engendré du Père, alors c'est-à-dire tout estine, voilà ce qui est nouveau. Tout estine, on va expliciter les appellations, les titres bibliques du Christ pour qu'il n'y ait plus d'ambiguïté. C'est-à-dire de la substance du Père. Alors, pourquoi de la substance du Père? Ben, c'est parce que là, on a pris conscience du problème qu'il y avait dans l'origénisme, sur lequel pouvait s'appuyer Arius, prêtre à Alexandrie, c'est-à-dire exactement l'endroit où Origène a fait carrière. Alors, sans doute qu'il s'appuyait sur Origène, qui est le plus grand des pères de l'Église, en un sens, hein, c'est lui qui a tout inventé. Mais, bon, évidemment, comme il cherchait les choses, parfois il y a des expressions malheureuses. Je vous ai parlé du fait qu'il disait « le Fils est engendré de la volonté du Père » et donc on se dit « ça va pas te dire ça, ça fait tomber le Fils du côté de la contingence » et donc on va dire qu'il est engendré non pas de la volonté du Père, mais de la substance du Père. Vous voyez, alors faut sentir la différence, c'est surtout pour ne pas dire, en fait on dit de la substance du Père, surtout pour dire qu'il n'est pas engendré de la volonté du Père. Autrement dit, c'est intrinsèque à Dieu qu'il y ait un fils en Dieu. C'est pas Dieu qui s'est donné un fils pour occuper ses longues soirées d'hiver. C'est intrinsèque, il est engendré de la substance du Père. Et puis on continue, il est Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de Dieu, vrai Dieu vrai de Dieu vrai. C'est encore des choses qu'on dit aujourd'hui dans le credo, hein. Qui n'est pas exactement le credo de Nicée, c'est le credo de Nicée de Constantinople, mais on a gardé dans le symbole de Nicée, hein, Deum de Deo, Lumen de lumine. Enfin voilà, ça marche mieux en latin d'ailleurs. On comprend mieux. Donc lumen de lumine, deum verum, de deo vero. Vous voyez toutes ces expressions. Elles remontent au concile de Nicée. Ce sont des expressions, alors pour le coup, pas du tout techniques, mais qui étaient utilisées par les pères. C'était des métaphores, notamment lumière de lumière, pour faire comprendre comment c'était possible qu'il y ait une distinction en Dieu. Et on disait, mais alors c'est toujours précieux et un petit peu bancal. On disait, regardez une bougie qui communique sa flamme à une autre bougie. Au moment où elle communique la flamme, il y a deux bougies, mais il n'y a qu'une flamme. Enfin, il y a une flamme et deux flammes en même temps. On disait, c'est une lumière de lumière. Regardez le soleil. Comment vous voulez séparer le rayon du soleil? C'est pas possible. Et donc, on disait, le père, c'est un peu comme le soleil, et le fils, c'est le rayon. On ne peut pas les séparer. Alors, c'est éclairant, sans mauvais jeu de mots, mais c'est toujours un peu embêtant. Enfin, on pourrait toujours. Ces comparaisons, elles prêtent toujours le flanc à une réduction de type arienne. Mais enfin, comme elles sont. Elles ont toute l'autorité des premiers pères, on les récupère, on va les garder, Dieu de Dieu, donc, c'est-à-dire, il est engendré du père, tout estine. Qu'est-ce que ça veut dire pour le fils d'être engendré du père? Alors, Nicée, le concile nous répond, c'est-à-dire de la substance du père, Dieu de Dieu, lumière de lumière, Dieu vrai de Dieu vrai, parce que, ça aussi c'était un truc que disait Arius, pour distinguer le père du fils, on disait, le père, c'est le Dieu vrai, et le fils, il est, alors, non pas le Dieu faux, mais il est que Dieu. Ça, vous comprenez très bien, il faut être platonicien pour piger. Nous, on n'est pas du tout platonicien, hélas, d'ailleurs, hein, parce que, enfin, bon, c'est un autre problème, mais on oppose le vrai au faux. Mais c'est très grossier de dire ça. Ce qui est beaucoup plus intelligent, c'est de faire comme les platoniciens ou les pères de l'Église, c'est d'opposer le vrai à la figure. C'est-à-dire l'accomplissement d'un être à une réalisation partielle. Donc quand on disait le fils, le père, il est vrai Dieu, et le fils, il n'est pas faux Dieu, c'est les idoles qui sont des faux dieux, mais il est que Dieu, ça laisse un peu penser que, toujours dans une optique platonicienne, c'est une réalisation dégradée de l'être divin. Alors pour éviter ça, on dit non, il est Dieu vrai autant que le père. De Dieu vrai. Vous voyez, ça c'est engendré, alors non pas fait, je continue de lire le symbole de Nicée. Pourquoi on dit non pas fait? Alors oui, ça c'est Proverbe 8. Ce texte que vous connaissez, qui est merveilleux, hein, c'est une prosopopée de la sagesse. Prosopopée, c'est une figure littéraire où on fait parler une entité qui normalement n'a pas la parole, mais on va la personnifier et elle va dire des choses sur elle-même. Alors Proverbe 8, c'est très beau. Le Seigneur m'a créé. Alors le verbe, la racine, c'est. Aman en hébreu, prémisse de son œuvre, et puis il faudrait lire tout le Proverbe 8, hein, relisez le Proverbe 8, j'étais là avant que les cieux soient, avant que les montagnes soient, j'étais en sa présence, je me réjouissais, je fais même comparer à un moment donné la sagesse, donc c'est une méditation de la sagesse créatrice, cette histoire, le Proverbe 8, et qui à la fin est même presque comparée à une enfant, pleine de grâce, qui danse devant Dieu. Donc c'est très poétique, c'est un très beau texte qui est là pour nous montrer comment Sophia en grec, Orma en hébreu, cette figure féminine, comment dire, c'est un peu ambigu, elle est à l'œuvre pour la création, donc est-ce qu'elle est elle-même créée ou est-ce qu'elle est vraiment du côté de Dieu? Enfin, c'est une figure un peu floue. Mais en tout cas, on médite cette figure féminine à laquelle Dieu délègue l'office de la création. Bon, ça c'est Proverbe 8. Et évidemment, comme il y avait, je l'ai dit tout à l'heure, la christologie du Nouveau Testament assimile le Fils à la sagesse, ça permettait de répondre aux martionnites, aux gnostiques, de dire, mais puisque le Christ c'est la sagesse, c'est le Christ lui-même en fait qui a chanté cette belle prosopopée, qui a dit « Le Seigneur m'a créé au commencement de ses voies, j'étais... je m'ébattais en sa présence, enfin, voilà, j'ai fait avant que les montagnes soient, j'étais, avant que la mer, que les étoiles soient là, j'y étais, tout ça c'est moi qui l'ai fait. » Donc il disait, regardez, c'est Jésus, en fait c'est Jésus qui dit ça, enfin, c'est Jésus, c'est la sagesse, la part divine de Jésus qui est la sagesse. Mais plusieurs fois j'ai cité ce fameux verset 22, « Le Seigneur m'a créé ». Et alors ça pose problème, puisque du coup, Arius se privait pas de dire ça. Il dit, mais pourquoi vous voulez dire que le Fils n'est pas une créature, puisque vous êtes les premiers, comme tous les pères de l'Église, à dire que c'est le Fils qui a déclamé ce merveilleux poème de Proverbe 8, et ça ne lui a posé aucun problème de dire « Dieu m'a créé, Dieu m'a fait ». Et donc, il ne faut pas être plus royaliste que le roi, puisque la sagesse elle-même, dans ce texte de Proverbe 8, elle dit noir sur blanc, enfin en direct, elle dit « Le Seigneur m'a créé ». Bon, ben voilà, la sagesse est une créature, une super créature, une créature magnifique, la première des créatures, la plus belle, celle qui est avant toutes les autres créatures. Mais c'est avec une créature, le Fils lui-même le dit, bon, ben, soyez pas plus royaliste que le roi, reconnaissez tout simplement que le Fils, c'est une créature. Alors voilà pourquoi, dans le symbole de Nicée, on va prendre à rebours ce verset. Alors c'est un petit peu embêtant, mais enfin, on a conscience que on peut pas, quoi que ça veuille dire ce verset, ça ne veut pas dire que la sagesse ou que le logos n'est pas divin. Et donc on le prend à rebours, on dit il est engendré, non pas fait. Voilà. Proverbe 8, 22, le Seigneur m'a fait. Eh ben, symbole de Nicée, le Fils n'est pas fait, il est engendré, non pas fait. Et alors, ensuite, là, le mot, alors, vous voyez qu'on a bien bétonné les choses déjà, hein, de la substance du Père contre Origène, Dieu de Dieu, Dieu vrai, né de vrai Dieu, donc là, non pas fait, donc on pourrait se dire, voilà, on a bien compris, ça y est, on a compris la chanson, hein, c'est pas les vilaines chansons d'Arius, on a compris la chanson, donc le Fils est tout autant Dieu que le Père, mais enfin, on veut encore bétonner les choses. Et c'est là qu'on va chercher un mot qui n'est pas du tout un mot biblique, qui est le mot homoousios en grec. Alors, comment le traduire? Mettons consubstantiel, consubstantialis, prenons ça. Donc, homoousios en grec, homo même, ousia, alors, ousia, à l'origine, ça veut dire la c'est quasiment la nourriture. Hein. Ousia, c'est la substance, mais au sens d'un truc qui est substantiel. Donc, c'est pas hyper technique et philosophique, mais enfin ça finit par le devenir puisque bon, c'est l'être, enfin la racine c'est l'être, donc de même substance que le Père, homoousios au Père, par qui tout a été fait et ce qui est dans le ciel et ce qui est sur la terre. Alors ça, on est bien d'accord, ça nous rejoue l'identification du logos à la sagesse créatrice, par qui tout a été fait. Pensons au prologue de Saint Jean, hein. Les premiers versets, c'est exactement ce que ça dit. Hein. Par lui, tout a été fait, et sans lui, rien de ce qui a été fait n'a été fait. Donc. Mais on a donné cette précision essentielle qu'il est homoousios. Alors, homoousios, pourquoi est-ce qu'on a dit ça? Parce que c'était une manière de dire, ils ont, enfin, c'était on n'a pas trouvé de meilleur mot pour dire, non seulement il est engendré de la substance du Père, mais il est cette substance même. Oui, parce qu'on pourrait très bien imaginer dans une ligne néoplatonicienne que quelque chose provient de la substance du Père sans être cette substance même. Alors là, au moins, on est certain que quand on dit ça, homoousios, ça veut dire il n'y a pas deux ousias, il n'y a pas deux êtres. Il n'y a qu'un seul être qui est commun avec le Père et le Fils parce que le Père, enfin plutôt, oui, le Père engendre le Fils, mais dans la substance de Dieu. Et donc, le résultat de cet engendrement, il est tout entier la substance de Dieu. C'est encore la substance de Dieu, en fait, le Fils, mais saisi autrement. Donc, c'est un mot alors, compliqué, hein, et vous sentez déjà que c'est peut-être pas ça qui va complètement tout de suite arrêter les débats, parce qu'il va falloir l'interpréter, ce terme de homoousios. Mais enfin, c'est, disons, le mot homoousios, c'est devenu l'étendard de la foi de Nicée. On a dit, maintenant, on a, à quelque chose malheur et bon, ça a beaucoup divisé l'Église, cette polémique, enfin, on a fini par forger un concept, certes non biblique, mais dont on estime qu'il est suffisamment précis pour préserver la foi biblique. Vous avez la naissance d'un dogme, en fait, ici. Un dogme, c'est pas forcément biblique, mais ça préserve la foi de l'Église comme transsubstantiel, voilà, c'est pas... Jésus n'emploie pas ce mot-là, mais c'est un dogme sur l'Eucharistie. Là, c'est un dogme trinitaire. Et c'est devenu l'étendard de la foi de Nicée, donc de la foi de la Grande Église. Homoousios. Voilà donc ce qu'a produit comme progrès doctrinal, je le disais tout à l'heure, l'hérésie arienne. Au passage, on voit que c'est très important aussi au plan théologique, puisque ça veut dire que la position, il pourrait y avoir une position bibliciste, vous voyez, qui dit n'essayons pas de, restons traditionnalistes, si vous voulez, de dire, puisqu'on a l'écriture sainte, restons sur le langage ancien de l'écriture sainte et on évitera les problèmes. Eh ben non. Ça marche pas, vous voyez. C'est cette introduction d'un terme non biblique pour préserver la foi biblique, elle nous oblige à saisir l'écriture dans la tradition. On peut pas être, le littéralisme, en fait, ne résout pas les choses. Ça paraît rassurant de dire gardons l'écriture sainte, n'enlevons rien à l'écriture sainte, mais n'y ajoutons rien, et on évitera les problèmes. Eh ben non. Parce que l'Église est prise dans le mouvement de la vie. Et il y aura toujours des gens qui vont inventer des nouvelles choses, et parfois elles sont mauvaises, et pour protéger la foi des petits, eh ben, c'est impossible de se contenter de dire les anciennes choses. Il faudra rajouter du vocabulaire au christianisme, étant sauf la position unique de l'écriture sainte. Personne ne dira que le symbole de Nicée est inspiré au même titre que l'évangile de Saint Jean. Mais il a une autorité juridique et dogmatique. À tel point que si vous refusez homoousios, j'ai le droit de vous dire, vous n'êtes plus chrétien. Vous voyez, donc il y a beaucoup d'enjeux hein, dans cette... C'est un petit mot, homoousios, mais petit pas pour l'homme, grand pas pour l'humanité. Alors, alors, il y aura encore des débats. Hein, tout le IVe siècle, donc 325 Nicée, mais tout le IVe siècle va être agité par la querelle arienne, parce que en fait, au gré aussi du retournement impérial, c'est-à-dire que il y a toujours la politique s'y mêle toujours un peu. Il y a des évêques qui restent ariens, il y a des évêques, alors, qui vont dire bon, ben écoutez, homoousios, c'est bien, mais c'est peut-être un peu ambigu, ça risque de trop identifier le fils au père. Écoutez, on propose un nouveau mot, c'est homoiousios. C'est quasiment comme homoousios, mais il y a un petit iota qui, au lieu de dire même nature, dit semblable, même ousia dit c'est semblable. Et donc, il y a des tentatives de conciliation des Ariens et des Nicéens en changeant un peu homoousios. Alors, comme souvent, quand on veut concilier les choses, loin de concilier, ça fait un troisième parti. On va avoir tout le monde est mécontent, mais alors ceux qui ont inventé homoiousios, ils veulent garder leur truc. Résultat, au lieu d'avoir deux églises, on en a trois. Donc, il y a les Homéens aussi. Enfin bon, ça donne un grand bazar, la politique par-dessus. Enfin, grand, grand bazar au IVe siècle. Hein, c'était, vous connaissez la phrase de Saint Jérôme, soudain, l'église, il dit ça dans une lettre, je crois, l'église s'est retrouvée arienne. Et il dit ça, je sais plus quand, mais c'est peut-être 30 ans après Nicée, hein. Faut pas croire qu'il suffit de se réunir et de dire voilà la foi de l'Église pour que ça soit reçu par l'Église. Hein. Il y a un moment donné, alors ça c'est je trouve intéressant aussi au niveau sens de l'Église, la grande majorité des évêques étaient hétérodoxes. Et ceux qui ont gardé la foi, c'est en gros Athanase, hein, Athanase d'Alexandrie, qui est le grand champion de Nicée, était présenté comme un extrémiste, un type intolérant, le gars qui... Ouais, n'empêche qu'heureusement, alors il a été exilé 7 fois, je crois, ce pauvre Athanase, qui n'était pas naze du tout, hein, malgré ce que suggère son nom, hein, c'est grâce à lui que la foi de l'Église, et donc il y a quand même, vous voyez, l'argument numérique, à un moment donné, ne suffit pas. C'est compliqué, hein, parce qu'un concile, c'est quand même l'argument numérique, on vote à un concile... Mais après, faut reconnaître que si on avait fait un concile en 350, sans doute que c'est pas la foi de Nicée qui aurait gagné. Hein. Donc Athanase et quelques autres quand même, il n'était pas tout seul, a quand même conservé la stricte foi nicéenne. Et finalement, il faudra attendre la fin du IVe siècle, quasiment. Ouais, il a fallu 50 ou 60 ans pour que la foi nicéenne s'impose. Alors, ce qui a compliqué les choses aussi, et là, je vais me permettre de terminer en 3 minutes là-dessus, c'est donc la querelle des pneumatomaques. C'est que, au fur et à mesure que la foi de Nicée va s'imposer quand même, en fait, le problème va se transposer à l'Esprit Saint. Et pourquoi ça? Alors, le problème, c'est-à-dire, est-ce que l'Esprit Saint est Dieu comme le Fils et le Père? Puisque maintenant, on a fini par bien comprendre la leçon et par comprendre que le Fils, Dieu de Dieu, vrai Dieu de vrai Dieu, lumière de lumière, n'est pas moins Dieu que le Père, il est homoousios ou Père. Pourquoi est-ce qu'il est homoousios? Parce qu'il est engendré de la substance du Père. Donc, engendré de l'ousia implique homoousios, implique autant Dieu que le Père. Voilà le raisonnement de Nicée. Et comme souvent, une arme finit par se retourner contre nous, de même que Proverbe 8 avait permis de répondre aux Marcionites, voilà que la foi de Nicée va se retourner contre l'Esprit Saint. C'est vraiment pas de bol. Mais pourquoi ça? Mais pour une raison très simple. C'est que l'Esprit Saint, c'est bien mystérieux. Qu'est-ce que l'Esprit Saint, c'est pas enfin. Mais enfin, il y a une chose dont on est absolument certain, c'est que l'Esprit Saint n'est pas engendré. Jamais l'Écriture sainte ne dit l'Esprit Saint est fils. Jamais l'Esprit Saint ne dit jamais l'Écriture sainte ne dit l'Esprit Saint est monogénos. Et donc tous nos arguments qu'on avait forgés patiemment et dans la douleur, et ce pauvre Athanase exilé cette fois en disant « homoousios », voilà ce que ça veut dire, engendrer, substance, le Père, le Fils et tout ça, voilà pourquoi le Fils est Dieu, ergo le Fils égale Dieu, voilà qu'on peut les retourner contre l'Esprit Saint en disant bah « donc le Fils n'est pas engendré, donc il n'est pas homoousios, donc il n'est pas Dieu ». Et on se retrouve avec une hérésie à la fin du IVe siècle, c'est-à-dire exactement au moment où la foi de Nicée s'impose pour le Fils, où il y a des gens tout à fait nicéens pour le Fils, mais presque trop nicéens, puisque du coup, ils vont se faire une équivalence entre homoousios, engendré, et Dieu, et donc de dire ben, l'Esprit Saint, finalement, n'est pas vraiment Dieu. C'est le visage bienveillant que Dieu tourne vers le monde. C'est Dieu donné à l'Église, c'est un certain esprit, vous voyez. L'esprit, ouais, c'est beaucoup plus... C'est très difficile hein, de comment dire, l'Esprit Saint, on est toujours un peu déstabilisé pour en parler, parce qu'un fils, on sait un peu ce qu'on sait, ce que c'est, mais l'esprit, c'est, on a toujours l'impression que c'est évanescent, vous voyez. Ah, dans ce club de bridge, je sais pas pourquoi je parle toujours du club de bridge, d'ailleurs, parce que je ne joue pas au bridge, mais dans ce club d'échecs, parce qu'il y a un bon esprit. Les gens sont sympas, il y a un bon esprit. Alors, est-ce que l'Esprit Saint, c'est le bon esprit qu'il y a dans l'Église? Oui, en un sens, c'est pas faux, mais enfin, si ça n'est que ça, est-ce qu'il est vraiment Dieu? Il y a un bon esprit chez les chrétiens. Les gens sont sympas. Il y a un bon esprit. Bah, c'est l'Esprit Saint. Ça met trop l'esprit du côté de la créature. Et donc, l'esprit devient une créature et n'est plus Dieu. Alors, ceux qui vont répondre au pneumatomaque, c'est les pères cappadociens, les trois grands pères cappadociens. Donc, c'est Grégoire de Nazianze, Grégoire de Nice et Basile de Césarée. Et comment ils vont répondre? Ben, ils vont répondre finalement d'une manière qui peut nous paraître plus faible que la manière dont on a réussi à forger des concepts, notamment homoousios. Ils vont se contenter de rappeler les effets de l'Esprit Saint dans l'humanité, dans l'Église. Et leur argument, c'est de dire l'Esprit Saint nous divinise. Sans l'Esprit Saint, on n'est pas chrétien. C'est l'Esprit Saint qui est à l'œuvre dans les sacrements. C'est lui qui nous divinise, c'est lui que l'Église adore en même temps que le Père et le Fils, donc il est Dieu. Vous voyez, c'est un argument très différent de la divinité du Logos. Le Logos, on a essayé le plus possible, à la limite, de regarder le film à l'intérieur de la Trinité, de voir qu'est-ce qui se passait quand le Père engendrait le Fils, et on a pu dire c'est la substance et tout ça, et voilà pourquoi il est Dieu. Et l'Esprit, alors moi je trouve ça très merveilleux en fait, je trouve que vraiment... on dit, mais on ne sait pas en fait, on sait beaucoup moins bien. L'Écriture nous dit il procède du Père, ce que dit l'Évangile de Saint Jean. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien difficile. Par contre, on regarde ce qu'il fait dans l'Église. En fait, oui, je disais, c'est le bon esprit de l'Église, mais en fait, si, ça suffit, parce que le bon esprit nous divinise. C'est pas simplement un bon esprit, une bonne ambiance humaine, mais seul Dieu peut diviniser. Et donc, l'Esprit, parce qu'il nous divinise et parce qu'il est adoré, l'Esprit Saint est Dieu. Mais on ne forge pas, en tout cas au concile qui va trancher la divinité du Saint-Esprit, c'est le concile de Constantinople en 381, on n'a pas éprouvé le besoin de forger un concept immanent à Dieu qui permette d'attraper la divinité du Saint-Esprit. Et d'ailleurs, c'est encore ce qu'on chante dans le credo aujourd'hui. Et je crois donc en Dieu, et en Jésus-Christ, son Fils unique, et le Dieu nous mène d'illuminer tous ces trucs-là. Donc, l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'on dit? Alors, l'Esprit Saint, Seigneur et vivifiant, qui procède du Père, je cite le symbole de Constantinople, qui, avec le Père, procède du Père, c'est juste l'Écriture sainte, l'Évangile de Saint Jean, qui, avec le Père et le Fils, est co-adoré et co-glorifié. Voilà la mention du culte auquel l'Église... Que le culte que l'Église rend à l'Esprit Saint. Et en gros, on dit au pneumatomaque, écoutez, l'Église adore l'Esprit Saint, vous n'allez quand même pas accuser l'Église d'être idolâtre quand elle adore l'Esprit Saint. Donc l'Esprit Saint est Dieu. Alors, il y aura quand même un concile qui finira par, attribuer homoousios à l'Esprit Saint, c'est Constantinople II. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Bon, ça c'est un autre problème, mais en tout cas, c'est pas ce que fait Constantinople. Voilà donc la constitution du dogme trinitaire dans du dogme trinitaire dans sa genèse au IVe siècle. Retenons les deux conciles. Concile de Nicée, le grand héros c'est Athanase, avec le mot magique c'est homoousios, le logos c'est autant Dieu que Dieu tout en étant différent du Père. Concile de Constantinople, j'ai été beaucoup plus rapide, mais voilà, c'est normal. 381, les héros, alors c'est Grégoire de Nazianze surtout, mais les pères cappadociens, qui nous rappellent qui nous disent l'Esprit Saint est Dieu parce qu'il est reconnu Dieu par l'Église. Voilà, bon, il est 19h13, ça fait une heure que je vous cause, vous devez en avoir ras-le-bol. Est-ce que vous avez une question? Il n'y a pas de question? Est-ce qu'il y a une question? Jean veut poser une question?
Oui, j'ai une question.
Vas-y, Jean.
À propos du retour en force de l'arianisme un peu plus tard, à l'époque des invasions barbares, on lit parfois que, comment dire, que l'arianisme, pour des mentalités païennes, était plus intuitif. Et je ne suis pas très sûr de comprendre précisément en quoi c'était plus clair ou ça collait mieux avec leur représentation spontanée de Dieu. Je ne comprends pas.
Oui, alors c'est vrai qu'on entend ça. Alors là, on passe du côté occidental, hein, donc je n'ai pas du tout parlé. C'est un peu bizarre, en fait. Ce que je dirais, enfin, je vais dire deux choses contradictoires, mais en tout cas paradoxales. Alors peut-être que ça répond en partie à cette histoire-là, mais j'en sais trop rien, en fait. Hein. C'est que, d'une certaine manière, l'arianisme, comme le pneumatomachisme, enfin ça n'existe pas, l'hérésie pneumatomaque, c'est des hérésies qui accordent trop d'importance au concept. Par exemple, on voit très bien que les Ariens, ou les semi-Ariens, ils disent, d'après les philosophes, Dieu est impassible. C'est les philosophes qui nous le disent, Aristote, Platon. Donc. Or, le Fils a souffert sur la croix, donc il est passible, donc il n'est pas Dieu. Ou bien, autre variante, alors ça c'est plutôt pour... c'est plutôt le... Comment il s'appelle? C'est plutôt Eunome qui disait ça. Eunome disait « inengendré, c'est la définition de Dieu ». Tout ce qui est inengendré est Dieu, et il n'y en a qu'un, c'est le Père. Tout ce qui est engendré tombe du côté de la créature. Et comme le Fils est engendré, ben, il n'est pas Dieu. Alors, premier aspect de l'hérésie arienne ou pneumatomaque, elle accorde trop à la philosophie, aux représentations philosophiques de Dieu, et du coup, elle prétend normer la foi de l'Église par des pensées philosophiques. Or, la philosophie est précieuse, mais dans un second temps seulement. La grande Église n'a jamais eu peur d'utiliser un philosophe contre le philosophe lui-même. Retourner un concept. Regardons Origène avec l'image, par exemple. C'est exactement ce qu'il a fait. Alors, on pourrait dire l'arianisme, de ce point de vue-là, ça serait une hérésie élitiste. C'est l'hérésie des philosophes. Mais on peut dire aussi, et là, ça colle mieux avec le fait que c'est certains barbares se retrouvaient plus dans l'arianisme, c'est que c'est aussi l'hérésie des simples. Mais quand je disais que Arius faisait chanter les dockers de Marseille, les dockers d'Alexandrie sur ces trucs, c'est vrai que c'est quand même plus simple de dire aux gens « on croit en un seul Dieu, c'est le Père », et le Fils, c'est la première des créatures. Il faut reconnaître que, sans être philosophique, la confession de foi de Nicée est beaucoup plus difficile à penser que le schéma un petit peu simple d'une émanation. Alors, l'hérésie arienne, elle réussit à la fois à être plus élitiste et trop simple, si vous voulez, alors que la grande Église n'est pas élitiste. Mais par ailleurs, elle se met un peu à la hauteur de Dieu, c'est-à-dire qu'on est quand même toujours un peu débordé par les choses. Alors, est-ce que le côté plus simple, c'est plus simple de dire il y a un seul Dieu, mais il n'y a pas d'engendrement en Dieu? Dieu n'a pas de fils, si vous voulez. Le seul fils, quand on parle de fils de Dieu, on tombe au plan de la créature, finalement. Voilà ce que dirait Léa de Nicée. C'est vrai que c'est peut-être plus simple à comprendre que de dire, alors attends, en Dieu lui-même, il y a un fils qui est engendré, mais il n'est pas engendré de la volonté, il est engendré de la substance, mais pourtant il est distinct, c'est quand même la substance de Dieu, mais il est distinct du Père. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est parce qu'il y a des, il y a des tropoi, tes hyparxéos, ça c'est ce que disent les Cappadociens, donc des modes d'être. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, il faut reconnaître qu'on finit toujours par être un peu, après 2000 ans de théologie trinitaire, il y a toujours un moment donné où on est débordé par la chose, hein, ça faut reconnaître. Bon, la foi arienne était peut-être plus simple. Alors, est-ce que les tribus, certaines tribus, parce que toutes n'étaient pas, mais c'était les Visigoths, je pense, qui étaient ariens. Il y avait les Vandales, enfin bon, toute une partie des tous ces gens-là. Est-ce que c'était plus simple pour eux? Est-ce que ça correspondait davantage aussi peut-être à des représentations païennes de ça, j'en sais trop rien, je sais pas, je suis pas assez compétent, je me méfie toujours un peu. C'est parfois aussi certains disent en revanche à Nicée collait bien l'idéologie l'impérialisme de Constantin, ça je suis pas du tout convaincu par la chose. Alors, vraiment qu'il y ait une influence politique, ça c'est certain, qu'on puisse à ce point établir une correspondance entre l'idéologie politique et le dogme, je suis un peu plus sceptique dans la mesure où c'est quand même très très compliqué ces histoires de dogmatique, et bon, je sais pas si c'est le meilleur instrument pour un empereur. Enfin, c'est tellement compliqué qu'il y a peut-être des manières plus simples d'asseoir son pouvoir. Hein. Bon, je sais pas si ça répond à ta question.
Oui, tout à fait. Et puis par ailleurs, j'ai lu exactement la même chose à propos des représentations politiques, mais pour Constance, qui a essayé d'utiliser l'arianisme. Oui. Donc, je crois que voilà, l'argument, oui, ça, si oui, on l'utilise dans les deux sens, bon, ça vaut peut-être pas grand-chose.
Oui, c'est peut-être plus Constante que Constantin, mais c'est son fils, non? C'est plus son petit. C'est qui Constance par rapport à Constantin? C'est son fils, non? De ses fils?
Je sais plus. Je crois que tous ses enfants sont un peu fait assassiner. C'est un peu compliqué, je crois.
Enfin, bref, bon. Je vais pas dire que c'est complètement faux, parce que c'est vrai que, mais bon, mais enfin, ce qui est par contre parfaitement, alors là, ce que je ne crois pas du tout, c'est une thèse que, par exemple, dernière en date, c'est Rubinstein qui a écrit ça, mais ça, c'est un vieux truc, hein, et tous les 50 ans, on a des têtes de gondole, on dit, en gros, la foi de l'Église démystifiée, c'est de dire, le symbole de Nicée n'est que politique. Voilà. Tout le contenu de Nicée, c'est politique. Non, alors ça, j'y crois pas du tout. Il y a peut-être des harmoniques dans la manière de le mettre en application, surtout dans les exils et les pas exils, ça oui, ça joue, mais dans l'homo ousios, non, ça j'y crois pas. D'autres questions? C'est formidable, hein, parce que j'ai réussi à vous convaincre de la foi de l'Église en une heure.
Vous m'entendez, mon père?
Beaucoup plus fort que Thérèse.
Oui, j'ai deux questions. Vous m'entendez?
Je t'entends. Ah ben c'est Gabriel. Ah, vas-y Gabriel.
Vous m'entendez? Oui. Alors la première question, c'est sur Eusèbe de Césarée. Ça s'est interrompu, oui, au moment où vous en parliez. Et vous pourriez nous en dire un peu plus sur son, enfin justement son influence sur Nicée et quelle position il défendait. Et la deuxième question, c'est sur Charlemagne qui a rajouté dans le credo la procession du Fils pour le Saint-Esprit. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Et est-ce que c'est justifié?
Bon, en deux minutes. Alors, pour Eusèbe, je l'aime pas du tout, donc c'est débile de dire ça, mais ce qu'on dit, enfin, je dis ce que j'ai lu, j'y connais rien, mais enfin, dans les livres d'histoire de l'Église, c'est que, de fait, lui, pour le coup, c'était un gars qui était vraiment un évêque un peu de cour, hein, faut reconnaître, un lèche-botte, et que ça a été un peu une girouette. Voilà, je préfère Athanase qui part en exil, et c'était un peu une girouette, et c'est vrai qu'à un moment donné, Eusèbe de Césarée a été franchement semi-arien. Bon, donc donc semi-arien, c'est-à-dire partisan, par exemple, de la formule homo ousios plutôt que de homo ousios. Donc, il essaye d'atténuer la difficulté qui est réelle, hein, au plan conceptuel, hein, c'est-à-dire il y a une vraie distinction en Dieu. C'est pas simplement pour nous qu'il y a le Fils. Ouais, c'est pas la distinction. C'est pas simplement Dieu a deux visages. Vous voyez, le visage du Père et le visage du Fils, mais dans sa réalité profonde, Dieu est que un. Non. La distinction existe en Dieu, mais il n'y a pas. Comment vous dire ça? Est-ce que le Fils est différent de la substance de Dieu, par exemple? Qu'est-ce que vous diriez? Ben non, voilà. Hein. La substance Lucia divine, c'est le Fils. Est-ce que la substance divine, c'est le Père?
Oui.
Ben oui, donc, alors il y a une proposition mathématique qu'on appelle la transitivité, non, je ne sais plus, l'égalité. Si A égale B et si B égale C, A égale C. Fils égale ousia divine, père égale ousia divine, donc fils égale père. Ben, ça marche pas, voilà, c'est ça le problème. Donc, je ne sais plus pourquoi je dis ça, oui, donc bref, voilà, il a essayé de simplifier les choses, et bon, c'est pas... c'est toujours un petit peu... Il raconte toujours les choses à son avantage, de Zeb. Alors, pour le filioque, alors là, c'est très très compliqué. Hein, pourquoi il y a ce... l'esprit qui procède du père et du fils, c'est pas impossible qu'il y ait un problème, comme souvent, de traduction du grec au latin, parce que procedit, c'est comme ça qu'on dit, hein, c'est procedere qu'on dit en latin, je pense, et c'est ek poroumai en grec, et ça n'a pas exactement le même sens, parce que ek poroumai, il y a un ek d'origine, alors que le procedere peut aussi bien dire l'origine que ce vers quoi on est tourné. Alors c'est bien possible que les latins ne voyaient pas les choses exactement de la même manière, et alors j'avoue que j'ai plus de dossier en tête, honte à moi, alors là vraiment tu te débrouilles pour me ridiculiser publiquement, donc cher Gabriel, et c'est très bon pour mon humilité, mais je ne sais plus qui a inventé cette histoire-là. Enfin, ce qui est certain, c'est que il n'y a pas uniquement, enfin, dans la formulation, je crois qu'on est obligé de tenir compte d'une différence culturelle et donc théologique entre les Grecs et les Latins. Mais ça serait trop facile de dire ça n'est que ça. Parfois, on a aussi, on a ça, souvent ça, hein, pour réduire les problèmes, de dire c'est juste une question de culture ou d'époque. Malheureusement, je pense que non. Hein. Alors, peut-être pas à l'époque de Charlemagne, mais je dirais à partir du XIIe siècle certainement, parce qu'à partir du XIIe siècle, pour nous embêter, les Grecs ont changé leur credo et ils ont rajouté le « ek tou patros monou ». Ils ont rajouté « monou ». Et ça, c'est pas bien. Parce que là, pour le coup, je trouve qu'on n'a plus le même credo. Enfin, moi, ça ne me dérange pas de dire le credo, Jean-Paul l'a dit, hein. De me dire que le père procède du, que l'esprit procède du père, ça me dérange pas du tout. Ça n'a rien d'hérétique. Le Saint Jean le dit. Par contre, je me vois pas dire que l'esprit procède du père seul. Parce que là, vraiment, les Grecs ont rajouté pour emmerder les Latins. Donc, en fait, c'est ça un peu là où on est. C'est que et les Latins et les Grecs ont tous les deux changé leur crédit, enfin leur credo. C'est les Latins qui ont fait le premier. Alors peut-être que ce n'était pas une idée terrible, hein, ça, je reconnais. Peut-être que Charlemagne avait tort. Enfin, ça. Mais bon, les Grecs, par réaction, ont changé leur. Et maintenant, on a deux crédits incompatibles. Et il faut reconnaître que justement, les Grecs ont essayé le plus possible de radicaliser ce ek tou patros monou. Hein, c'est compliqué. Hein. Est-ce qu'on a pas la même foi trinitaire, j'irai pas jusque-là. Il y a une différence théologique, ça c'est certain. Est-ce que c'est que culturel? Non. On touche du doigt l'extrême difficulté de séparer adéquatement ce qui est de l'ordre de la foi et ce qui est de l'ordre de la théologie. Il y a quand même un moment donné où on va pas réussir. Enfin voilà, je pense que c'est typiquement un cas où je crois qu'il faut quand même dire qu'on a la même foi que les Grecs. Mais on a une expression tellement différente que on ne sera jamais d'accord, en fait. On n'a plus les mots pour dire notre foi commune. Enfin, je veux croire quand même qu'on a la foi commune, quand même. Ce qui n'est pas le cas avec certaines églises issues du protestantisme type les unitariens. Les unitariens ou les socialistes, eux, ils sont plus du tout la foi trinitaire. Ouais, là, c'est autre chose. Ou les témoins de Jéhovah, si vous voulez. Il y a des chrétiens, enfin, il y a des gens qui se réclament du Christ, là, faut dire, on n'a pas la même foi trinitaire qu'eux, ça, c'est très clair. Avec les orthodoxes, quand même, je pense qu'on a la même foi trinitaire, mais on est allé tellement loin dans la différence théologique qu'on n'a même plus les mots pour dire notre foi commune. Bon, ben, enfin, je suis pas très compétent sur le sujet. Moi, je suis pas dogmaticien, hein, c'est tous ces trucs. Moi, je vous dis des souvenirs que j'ai de lecture et des trucs comme ça, mais je suis pas dogmaticien. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui veulent poser des questions? Non, c'est déjà très tard.
Moi, j'ai une question encore.
Oui, si rapide alors.
Très rapide. Comment est-ce que vous expliquez, du coup, les proverbes, enfin, le proverbe 8, la sagesse qui a été créée? Quelle interprétation on donne, du coup, à ce verset?
Si tu veux, moi je pense qu'à un moment donné, il faut assumer le fait que l'écriture est porteuse de la parole de Dieu dans l'analogie de la foi. Et donc, moi, ça ne me dérange pas de dire ce verset est magnifique. Parce qu'on voit bien que l'Ancien Testament, déjà, est travaillé par la question de la distinction du multiple en Dieu, si tu veux. Si la distinction, comment dire, si le multiple, quand j'ai multiple, c'est la multiplicité des hypostases, hein, okay, donc des personnes en Dieu. Si c'était purement et simplement une nouveauté du Nouveau Testament, ben on serait peut-être embêté. Par un bout, moi je suis content qu'on ait des textes, que ce soit à travers la sagesse ou l'ange du Seigneur, c'est un petit peu les deux, ou le nom, ou la théologie du nom. Mais en tout cas, on voit bien que l'Ancien Testament est travaillé par la question, tout en disant les idoles, ça n'existe pas, les païens, c'est n'importe quoi, les idoles, faut les casser, les païens, faut leur casser la gueule aussi. Enfin, vraiment, on ne peut pas les accuser d'être tentés par le polythéisme. Enfin, en tout cas, il y a un progrès clairement dans le sens de un seul Dieu. Mais paradoxalement, en même temps qu'il y a ce progrès vers un seul Dieu, on est travaillé par dire, mais est-ce qu'en Dieu, il n'y a pas quelque chose d'un dédoublement? Et alors, ça reste tâtonnant, si vous voulez. Mais moi, je suis très content qu'il y ait un texte comme Proverbe 8 qui permet de dire, ben, regardez. Notamment, ben, c'est comme ça que les pères de l'Église, enfin, pour évangéliser les Juifs, Saint Paul, Saint Jean, enfin, pourquoi est-ce qu'ils utilisaient ça aussi pour dire à Israël, mais regardez, en fait, qu'il y ait un fils qui soit aussi Dieu que Dieu, vous qui êtes juif, vous devriez le comprendre un petit peu. C'était déjà suggéré dans l'Ancien Testament. Mais ça n'avait pas la précision du Nouveau. Et donc, moi, ça ne me dérange pas si on prend ce qu'on appelle l'analogie de la foi. Je pense Proverbe 8, 22, je ne vais pas me battre pour dire, dans ce verset, Proverbe 8, 22, il y avait déjà, au sens littéral, l'homoousios. Je ne vais pas me battre pour ça, parce qu'en fait, j'en sais rien, je pense que non. Alors en fait, qu'est-ce qu'il m'a créé alors le verbe c'est caniti, je le dis amon, c'est n'importe quoi. Il m'a créé prémisse de c'est amon, caniti, amon, je sais plus quoi. Donc le verbe c'est cana, cana c'est ça peut vouloir dire faire, ça peut vouloir dire acquérir. Un supermarché en hébreu moderne c'est un canyon. C'est marrant d'ailleurs, un canyon. Je vais au canyon, ça veut dire je vais, c'est parce qu'on achète. Cana ça veut dire acheter. Alors c'est acquérir. Donc ce verset, on peut le traduire « le Seigneur m'a fait », mais on peut le traduire aussi « le Seigneur m'a acquise », puisque c'est une femme, hein, c'est Rorma qui parle. Bon, alors ça peut être une manière de répondre aux Ariens, mais moi, même à la limite, si on traduit par « Dieu m'a fait », ça ne me dérange pas, je dis « le sens littéral n'a pas encore la précision de l'homoousios », on n'est pas encore à Nicée, mais on est sur le chemin. Il y a un chemin et il commence dans l'Ancien Testament. Est-ce que ça te satisfait comme réponse?
Oui, merci beaucoup.
Eh bien, tant mieux, parce que tu n'en auras pas d'autres. Je n'en ai pas d'autres. Allez, j'arrête de vous embêter. Portez-vous bien. Le Seigneur vous bénisse. Et puis, on va terminer par un autre Père.